Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du retour en Centrafrique de Michel Djotodia. Après plus de 6 ans d'exil, l'ex-président est donc rentré à Bangui pour, dit-il, contribuer à la paix. Il entend d'ailleurs organiser une conférence nationale de réconciliation en vue d'une élection présidentielle apaisée. Le scrutin, je vous le rappelle, est prévu dans 4 mois. Que vous inspire ce retour? Le retour de celui qui fut l'un des principaux acteurs de la crise qui a plongé la Centrafrique dans le chaos? Quel avenir? Évidemment, la question se pose. Quel avenir politique pour l'ancien chef de la Seleka, devenu président autoproclamé avant d'avoir été poussé vers la sortie sous la pression internationale? Vos réactions, vos commentaires, vos témoignages, vous êtes en Centrafrique, appelez-nous, on a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70 et je vous attends également sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, vous connaissez le principe, vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous appelez et on vous répond évidemment en direct avec plaisir. Bruce, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Bienvenue, Bruce. Merci de nous appeler. Vous êtes à Brazzaville, au Congo. C'est bien ça. Vous avez des questions sur le verdict du procès des assassins du journaliste Jamal Khashoggi?
Oui.
Eh bien, on vous écoute, Bruce.
Ok. Après la mort du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018 à Istanbul, en Turquie, 5 coupables avaient été condamnés à la peine de mort. Et finalement, la sanction a été annulée cette semaine. Mmh. Ce que je veux savoir, qu'est-ce qui justifie ou encore quelles sont les raisons de ce revirement?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on assiste là à un allègement des peines. Un tribunal saoudien a annulé la peine de mort prononcée contre ces 5 agents des services de sécurité saoudiens. La sentence a été commuée en 20 ans de prison. Sami Boukhelifa, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Bruce, bonjour à tous.
Journaliste au service international de RFI, comment expliquer ce verdict?
Alors la justice saoudienne en fait se base sur une interprétation de la loi islamique. Que dit cette interprétation? La peine de mort peut être appliquée ou non en fonction des proches du défunt assassiné. Dans l'affaire Khashoggi, ce sont donc les fils du journaliste assassiné qui ont dû s'exprimer à ce sujet. Ils ont accordé leur pardon au meurtrier de leur père, ils l'ont fait publiquement, c'était au mois de mai dernier. Et à partir de là, la justice saoudienne a donc estimé qu'il n'y avait plus de raison que les meurtriers de Jamal Khashoggi soient exécutés puisqu'ils ont bénéficié du pardon de la famille. Leur peine, donc la peine capitale, a donc été commuée en une peine de prison. Ces 5 accusés précédemment condamnés à mort en décembre dernier échappent donc à la décapitation et écopent de 20 ans de réclusion criminelle.
Oui, et avec ce nouveau jugement, la justice saoudienne précise que l'affaire est définitivement close. Bruce, vous avez une autre question?
Deuxième question, comment réagissent les ONG qui avaient critiqué la condamnation à mort de ces 5 coupables?
Oui, des organisations internationales des droits de l'homme qui étaient vent debout en décembre dernier. Comment réagissent-elles aujourd'hui, Sami Boukhelifa?
Eh bien, Amnesty International, par exemple, déplore un simulacre de procès, le verdict ne reconnaissant même pas l'implication des autorités saoudiennes. Il y a aussi la rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamard, qui avait mené toute cette enquête. Et donc, quant à elle, elle a fustigé une parodie de justice. Parce que, rappelons-le, Juan, ce procès a été très, très opaque. Ce lundi, lundi en début de semaine, lorsque ce tribunal saoudien a donc annoncé ce verdict définitif dans cette affaire Khashoggi, eh bien, il a fait cette annonce de manière complètement anonyme. Les meurtriers qui ont été condamnés, eh bien, ils ne sont pas identifiés. On ne sait pas qui c'est exactement.
On ne connaît pas les noms des personnes condamnées, alors.
Lorsque le verdict définitif est tombé, il concernait des personnes non identifiées. D'accord. On n'a pas leur nom. Mmh. Et puis, donc, le verdict concerne 8 personnes en tout, 5 condamnées à mort précédemment, donc, qui ont 20 ans de réclusion criminelle. Les 3 autres écopent de 7 à 10 ans. Alors, qu'on sait qu'à l'origine, initialement, donc le commando qui a participé à l'assassinat de Jamal Khashoggi en octobre 2018 était composé d'une vingtaine de membres. Et parmi eux, il y avait un médecin légiste qui avait apporté une scie à os qui a justement servi à démembrer le journaliste. Et pourtant, la justice saoudienne ne retient même pas la préméditation dans cette affaire et parle d'une simple négociation avec Jamal Khashoggi et ce commando qui a finalement mal tourné. Sans oublier que les enquêtes de la CIA et de l'ONU ont démontré l'implication du prince héritier Mohamed Ben Salman, l'homme fort du royaume, qui a été désigné comme commanditaire direct du meurtre. Mais ça n'apparaît évidemment nulle part dans l'enquête saoudienne.
Et parmi les nombreuses réactions, signalons celle de la fiancée de Jamal Khashoggi. Elle dénonce une farce sur Twitter. Ce verdict est à nouveau une parodie de justice. Bruce, a-t-on répondu à vos questions ?
Et merci, monsieur Juan Gomez, pour cette lumière.
Merci surtout à Sami Boukhalifa du service international de RFI. Bonne journée à tous les deux. Il est 10h, bientôt 17 minutes à Paris. 33 9 693 693 70. Reagan, soyez le bienvenu. Bonjour.
Oui. Bonjour, Juan. Bonjour.
Nous vous écoutons.
De la Radio Mondiale.
On vous écoute.
On constate de plus en plus la montée des phénomènes ou des manifestations anti-masques dans les pays occidentaux. Du coup, j'aimerais savoir pourquoi des manifestants refusent ou refusent-ils les ports des masques ?
Ouais.
Et puis, y a-t-il un profil particulier de ces manifestants ?
Ouais, c'est vrai que malgré la progression de la pandémie, les rassemblements anti-masques se multiplient. Alors surtout en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, c'est vrai que les manifestations contre le port obligatoire du masque dans l'espace public ont rassemblé jusqu'à des dizaines de milliers de personnes. En France, disons-le clairement, le mouvement est encore très peu suivi. Bonjour Antoine Bristiel.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé en sciences sociales et vous êtes l'auteur de l'étude pour la Fondation Jean Jaurès, Bas les masques, sociologie des militants anti-masques. C'est la première étude qui tente de dresser, on va dire, le portrait robot des anti-masques en France. D'abord, quels sont leurs arguments ? Pourquoi refusent-ils de porter le masque ?
Alors, il y a deux arguments qui sont principalement utilisés. Le premier, il concerne typiquement le masque, c'est de dire le masque serait inutile, voire le masque serait même dangereux. Et là, on peut dire que la communication du gouvernement qui au départ a dit qu'il ne fallait pas porter un masque, que de toute façon les Français ne sauraient pas le mettre, puis finalement ces obligations, ça a dû renforcer la confusion à ce niveau-là. Mais ce premier argument est vite remplacé par un second qui est de dire de toute façon l'épidémie est terminée, voire l'épidémie n'existe pas vraiment, et c'est juste une tentative de la part du gouvernement pour essayer de tester notre servilité afin d'instaurer une sorte de nouvel ordre mondial dans lequel les citoyens n'auraient plus du tout de liberté.
Donc pour ces militants, nous obliger à porter le masque serait une entrave à nos libertés individuelles.
Exactement. Et on se rend compte que pour ces personnes, la question de la liberté individuelle, elle est beaucoup plus importante que toutes les mesures de sécurité sanitaire qui pourraient être mises en place.
Et ce sont des gens qui ne croient pas donc dans le coronavirus. Ils estiment que c'est un virus imaginé. Inventé.
C'est ça, exactement. Ce qu'on remarque chez ces personnes, c'est qu'elles sont extrêmement défiantes envers les différentes institutions de notre pays et qu'elles versent assez rapidement dans les théories complotistes, que ce soit sur les questions médicales. Par exemple, il y en a 9 sur 10 qui croient qu'il y a un complot entre l'État et l'industrie pharmaceutique pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins. Mais ça dépasse aussi très clairement la question médicale, puisque il y en a plus de la moitié qui croient en l'existence des Illuminati, plus de la moitié qui croient à la théorie du grand remplacement, en l'existence d'un complotionniste, etc.
Qui sont les anti-masques en France ? Est-ce que vous êtes parvenu à dégager le profil de ces militants ?
Alors, j'ai réussi à dégager un profil type de ceux qui vont se mobiliser, donc des militants anti-masques finalement. Et c'est assez particulier parce que d'ordinaire, on a plutôt affaire à des publics qui sont de catégories sociales plutôt populaires avec des niveaux d'éducation assez bas. Et là, c'est tout l'inverse. On a des personnes qui proviennent de catégories sociales supérieures. Il y a 36% de cas. C'est le double de ce que l'on a dans la population française. Et des personnes qui sont aussi très éduquées avec en moyenne un bac plus 2 et assez âgées avec en moyenne une cinquantaine d'années. Donc un public très atypique à ce niveau-là.
Et vous êtes surpris par ce profil ?
Oui, c'est très surprenant, mais ça s'explique par leurs attitudes libertaires, les attitudes de valorisation de la liberté individuelle, telles qu'on peut les retrouver aussi dans une culture plus anglo-saxonne, où on remarque aussi, dans un contexte américain, que ceux qui ont une attitude libertaire, généralement, ont un haut niveau de diplôme, ont un haut niveau d'éducation et ont un haut niveau aussi de salaire.
Alors, j'ai évidemment jeté un coup d'œil sur cette étude que vous avez réalisée pour la Fondation Jean Jaurès. Ce sera le dernier mot, parce qu'on faut qu'on passe à d'autres auditeurs sur d'autres sujets. J'ai vu que les anti-masques étaient plutôt de droite.
Oui, exactement. Il y a un tropisme de droite assez marqué parmi ces personnes. Et ça s'explique encore une fois parce que cette valorisation de la liberté individuelle, ces attitudes libertariennes, ce sont traditionnellement plutôt des attitudes de droite que des attitudes de gauche.
Ouais. Reagan, a-t-on répondu à vos questions ?
Bah, c'est super, c'est parfait. Merci beaucoup, Juan. Merci aussi à tous les auditeurs.
Merci à vous. Bonne journée à Kinshasa. Et merci à Antoine Bristiel d'avoir été avec nous, professeur agrégé en sciences sociales et auteur donc de cette étude pour la Fondation Jean Jaurès. Bas les masques, sociologie des militants anti-masques. Parlons du Brexit. On vous en parle dans nos différents journaux. Et pour cause, nous sommes en pleine session des négociations sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. J'ai oublié. J'ai perdu le prénom de notre auditeur, Jean-Noël, voilà. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Juan, bonjour.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. En fait, j'aimerais savoir, Juan, où en sont les négociations et comment l'Union européenne accueille-t-elle la nouvelle posture britannique ?
Ouais, nouvelle posture britannique, d'autant que Boris Johnson menace de claquer la porte des négociations si le 15 octobre, aucun accord n'est trouvé avec les Européens. Béatrice Leveillé, bonjour.
Oui, bonjour.
Journaliste au service international de RFI, où en sont les négociations ?
Eh bien, écoutez, il y a eu un gros rebondissement cette semaine avec une loi qui a été publiée mercredi en Grande-Bretagne qui remet en question un accord signé par Boris Johnson, le Premier ministre lui-même. C'est un accord qui garantit la paix en Irlande du Nord et qui permet de ne pas mettre de contrôle en place sur l'île, des contrôles, des barrières qui pourraient déclencher un nouveau conflit entre Nord-Irlandais et Irlandais.
Ouais.
Donc là, ça a déclenché une déferlante de réactions de juristes horrifiés et le vice-président de la Commission européenne est à Londres aujourd'hui en pleine négociation pour essayer d'éclaircir la situation. Comment en effet continuer à négocier avec un État qui ne respecte pas ses engagements ? L'Union européenne demande donc l'application pleine et entière de l'accord de retrait qui a été signé en octobre dernier.
Une réunion d'urgence aujourd'hui même entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Expliquez-nous, Béatrice Leveillé, pourquoi Boris Johnson fait-il passer cette loi qui révise, rappelons-le, elle révise en partie les engagements pris par lui-même dans le cadre du Brexit ?
Oui, c'est vraiment bizarre. Hein. Pourquoi formaliser dans une loi le fait que vous n'allez pas respecter un traité international que vous avez signé ? Alors, il s'agit en fait pour Boris Johnson de s'appuyer sur le Parlement, où il a la majorité, pour renier sa propre signature, et aussi pour que l'Union européenne, outrée, choquée, mette un terme de son propre fait aux négociations sur le retrait du Royaume-Uni, et faire ainsi porter la responsabilité d'un no deal, donc d'une sortie sans accord, à l'Union européenne.
En deux mots, Béatrice, quelles peuvent être les conséquences d'un no deal ?
Eh bien, c'est ça qui est étrange parce que ça serait quand même beaucoup plus grave pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne. Pour vous donner une idée, le Royaume-Uni fait 47% de ses exportations, donc près de 50% de ses exportations avec l'Union européenne. Dans l'autre sens, c'est complètement inverse. L'Union européenne ne fait que 8% de ses exportations vers le Royaume-Uni. Et c'est l'Allemagne qui représente un quart de ces 8%. La France est en troisième position avec près de 10% derrière les Pays-Bas. Donc en fait, le retour des barrières douanières, des taxes, des contrôles aux frontières, ça va surtout pénaliser les Britanniques. Et puis surtout, avec cette loi qui a été publiée mercredi, en fait, c'est la crédibilité internationale du Royaume-Uni qui est en jeu. Par exemple, Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, a fait un communiqué pour dire qu'il n'y aura pas d'accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni si les Britanniques ne respectent pas leurs paroles et s'y mettent en danger le processus de paix en Irlande du Nord.
Ouais. Jean-Noël, vous aviez une autre question ?
Oui, la seconde question. Est-ce que le Royaume-Uni peut se permettre d'avoir un audit ? Et est-ce que ce ne sont pas que des menaces en l'air?
Oui, on a un peu répondu, Béatrice Leveillé, mais en substance, oui, alors... est-ce que Boris Johnson peut se satisfaire d'un no deal?
Ben, on peut se demander si c'était pas le but du jeu depuis le départ, parce que ça fait des mois maintenant qu'il ne négocie pas réellement. Ça achoppe sur la pêche et sur un commerce équitable entre l'Union européenne et les Britanniques. Sachant qu'ils font 47% de leurs exportations vers l'Union européenne, il est très important pour les Européens que ces exportations respectent les normes, les critères, les lois européennes, etc. Et c'est là-dessus que ça achoppe, puisque que les Britanniques ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent retrouver leur entière souveraineté et pouvoir exporter ce qu'ils veulent sur le marché européen. Évidemment, les Européens ne sont pas d'accord du tout avec ça. Pour la pêche, depuis 40 ans, il y a des accords très importants qui ont été signés entre les pêcheurs. Et là aussi, tout est remis en question. En fait, c'est 50 ans de négociations commerciales qui ont fait tomber petit à petit des barrières, des contrôles, etc., qui sont remises en question par une sortie sans accord. Et c'est assez tragique pour les Britanniques.
On aura l'occasion de suivre évidemment l'évolution des discussions et notamment cette réunion d'urgence convoquée aujourd'hui même entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Béatrice Leveillé, bonne journée. Merci Jean-Noël de nous avoir appelés et je suis ravi d'accueillir Esdras Dikoumana du service Afrique de RFI. Bonjour Esdras.
Bonjour.
Des questions sur la Centrafrique. On va en parler dans un quart d'heure avec les auditeurs. Des questions sur le retour de l'ancien président Michel Djotodia après 6 ans d'exil. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
L'ancien président centrafricain Michel Djotodia est rentré samedi à Bangui. Mmh. Il était revenu une première fois en janvier pour un séjour de 48 heures. Et cette fois-ci, il affirme que son retour est définitif. Alors, Juan, j'ai deux questions. Oui. Quel est l'intérêt de Michel Djotodia à rentrer à Bangui à 3 mois de la présidentielle, sachant qu'il ne remplit pas les conditions pour être candidat?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Esdras Dikoumana. C'est vrai que le retour de Michel Djotodia suscite de nombreuses suspicions, tout du moins dans les rangs de l'opposition. Que vient-il faire à Bangui, à quelques semaines de la présidentielle?
Eh bien, à 3 mois plus ou moins de la présidentielle, les proches de Michel Djotodia assurent qu'il n'est pas là pour ses intérêts personnels. L'ancien chef de la CEDECA, qui avait pris le pouvoir par la force en 2013, se présente aujourd'hui en faiseur de paix. Selon Idriss Salaoué, c'est un de ses proches. L'ancien président a été choqué de voir la violence qui n'a cessé d'augmenter dans le pays, malgré la signature d'un accord de paix il y a plus d'une année. Son objectif aujourd'hui est d'arriver à organiser le plus rapidement possible un grand rassemblement de la réconciliation pour la Centrafrique. Il veut obtenir de toutes les parties et surtout des chefs de guerre qu'ils s'engagent à respecter l'accord de paix et qu'ils s'engagent aussi à des élections apaisées, selon toujours son proche. Donc son entourage lui a concocté un programme très ambitieux. Il veut rencontrer tout ce qui compte dans le pays.
Oui, y compris donc l'opposition, le pouvoir, la société civile, les religieux et les chefs religieux.
Et les chefs de guerre. Et les chefs de guerre qu'il veut rencontrer dans leurs fiefs respectifs.
A-t-il une chance de réussir?
Le gouvernement, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il peut réussir? Le pouvoir et la société civile et l'opposition sont très méfiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tout le monde a ses raisons aujourd'hui de ne pas le croire. L'opposition ne veut qu'une chose aujourd'hui. Il veut un grand rassemblement, ou plutôt une conciliation qui est organisée par le pouvoir pour organiser, le glissement des élections. Parce qu'ils sont assurés, ils sont sûrs que l'élection n'aura pas lieu à la faveur des événements des derniers jours.
Il y a beaucoup de retard pris dans l'organisation. Absolument. Des élections et notamment concernant la liste électorale. Jean-Noël, Moussa, vous nous disiez avoir deux questions. La deuxième.
Ok. Comment réagit le gouvernement centrafricain au retour de Djotodia?
Malgré cela, le gouvernement et d'une manière générale le pouvoir a réagi d'une manière plutôt sereine. Je vous rappelle que Michel Djotodia ne pouvait pas quitter son exil béninois sans l'accord du gouvernement, justement. Et je vous rappelle également que la première personnalité qu'il a rencontrée lundi, juste après son arrivée, c'est le président du pays. Et il l'avait déjà rencontré la première fois lorsqu'il est venu. Donc, de quoi alimenter les rumeurs sur une éventuelle alliance entre le chef de l'État et Djotodia, mais les deux parties ont démenti jusqu'ici.
Une éventuelle alliance en vue de la présidentielle du 27 décembre. On va en parler avec les auditeurs juste après le journal. Merci infiniment Esdras Dikoumana. Reste avec nous, on retrouve Mehdi Medeb.